C'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor. C'est du lundi au vendredi et aujourd'hui c'est avec le réseau paysan du Finistère, le CIVAM, et une agricultrice en cours d'installation à Rosnoën.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui regarde le Finistère pousser au fil des saisons. On aime ça, parcourir la campagne alentour, parfois le bord de mer également, on a de quoi faire. Et aujourd'hui, on sera en proximité, comme on dit, dans notre communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne-Maritime. On reste à l'est du pont de Térénèse, en compagnie du CIVAM, le réseau de la paysannerie et de la ruralité, qui aide beaucoup de candidates et candidats à l'installation. Aujourd'hui, Valentin Hilleret, qui est animateur et conseiller technique au CIVAM, est venu accompagné de Sarah Mathieu, qui s'installe, elle est en cours d'installation à Rosnoën, en arboristerie, agrumes et noisettes, avec un peu de pépinière, des petits fruits, elle va nous raconter tout ça. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Sarah, quel est votre parcours avant l'agriculture, je veux bien dire?
Pendant plusieurs années, j'ai été soudeuse serrurière pour une compagnie de théâtre de rue dans le sud de la France.
Ah oui, donc c'est rien à voir quoi.
Non, effectivement.
Soudeuse serrurière, je savais même pas que ce métier existait.
Ah oui.
Ouais. C'est-à-dire qu'on soude des serrures, c'est ça?
Non. Serrurière, c'est plutôt un métier, c'est oui. De travail du métal. Mmh. Et soudeuse. En fait, c'est que le travail du métal est assez. Il y a plein de catégories, quoi. Et en l'occurrence, pour ce métier-là, ça porte le nom de serrurière. Et technicienne du spectacle, si on peut dire.
Oui.
Et voilà, je travaillais surtout pour des structures pyrotechniques.
D'accord, ah oui. Et tout à coup, enfin j'imagine que c'est pas tout à coup, vous êtes dit, tiens, je vais faire autre chose. Allez hop.
Ouais, c'est pas tout à coup, effectivement. Ça fait, depuis quand même mes 20 ans, un peu avant, je travaillais déjà occasionnellement pour une ferme en biodynamie en Belgique, parce que je suis belge de nationalité, et j'ai grandi en Belgique. Et du coup, j'ai eu souvent l'habitude de travailler dans les fermes.
Vous aimiez bien ou parce que vous étiez issu d'un milieu agricole ou...
Je ne suis pas issue du milieu agricole à proprement parler. Mes parents sont plutôt du milieu médical, mais j'ai baigné un peu dans la culture de l'agriculture de subsistance. De par le fait qu'une partie de ma famille est immigrée italienne et a travaillé dans les mines de charbon en Belgique. L'agriculture faisait partie aussi d'un mode de survie.
Oui, on avait son jardin vivrier en fait, quand on était mineur.
Et puis les animaux, lapins, poules, moutons, enfin voilà, c'est un peu ça.
Donc pour le plaisir, vous alliez dans les fermes faire des stages ou pendant les vacances, non? C'est ça?
je relayais aussi, je relayais un peu pour que les agriculteurs puissent partir aussi un peu.
Donc en travail, quoi, rémunéré, etc. Quoi. Ouais.
Oui, on peut dire ça.
En professionnel.
Oui.
Et donc vous êtes formée sur le tas, en fait.
Oui. Oui, après j'ai vécu dans des zones assez forestières. Du coup, l'arbre faisait partie aussi de gestion quotidienne. Et là où je travaillais en soudure, j'étais aussi un peu celle qui allait tronçonner les arbres, aller débroussailler. Enfin, j'étais aussi
polyvalente.
Et ça fait plusieurs années que là, j'ai repris des terres familiales en Sicile avec mon compagnon et notamment la noisette, l'agrume et l'olivier.
Mais c'est en Sicile.
En Sicile, oui. Vu que je vis ici, j'ai décidé de me lancer dans la plantation de noisettes et d'agrumes.
Tout en gardant l'exploitation en Sicile aussi ou pas?
Du coup, là, je vais être moins présente de fait. Mais voilà, ça a été un élément assez déclencheur quoi, dans mes choix de production.
Oui, mais alors quand même, le climat, on a quand même envie d'objecter que le climat finistérien n'est pas exactement celui de la Sicile. Alors que répondez-vous à ça, Sarah Mathieu?
Alors, la noisette, ce qui m'a vraiment inspirée, c'est... Bon, effectivement, je travaillais déjà là-bas avec la noisette, mais en fait, j'ai découvert dans les monts d'Arrée des noisettes délicieuses.
Meilleures que celles de Sicile.
Bah, aussi
c'est
bonne.
Pas la même variété, quoi. Ouais.
Bah, c'est pas les mêmes variétés, mais quand même assez proches. Enfin, assez proches, parce qu'il y a certaines variétés italiennes qui ont été reprises dans le sud de la France. Et notamment, moi, je travaille avec un pépiniériste dans le sud de la France. Et qui, c'est des variétés aussi précoces. Et ce qui convient, ce qui me convient pour la Bretagne, parce que c'est important d'avoir des variétés précoces ici.
Alors, je n'ai pas demandé la question un peu rituelle, mais c'est en agriculture biologique?
Oui.
Ou...
Oui.
Et donc, la noisette, bah, y a eu un débat assez récent hein, sur le fait de cultiver des noisetiers en agriculture biologique, comme quoi c'était difficile, voire impossible, qu'il fallait absolument un pesticide qui était interdit. Enfin, qu'est-ce que vous répondez à ça, alors?
Question délicate. Alors, moi, j'ai eu l'habitude des productions, en tout cas en Sicile, biologiques. Ils n'utilisent pas de produits, en tout cas les personnes qui cultivent autour de moi. Dans le sud-ouest, j'ai été voir des pépinières et j'ai pas eu affaire à des... Si, j'ai eu affaire à des producteurs aussi de noisettes. Je pense que la nécessité pour certains agriculteurs de réintroduire des néonicotinoïdes, c'est relié aussi à une agriculture intensive. Alors, c'est, bon, là, je vais vous dire en fait des choses, mais qui se disent aussi un peu en huis clos, que en fait, c'est... Le charançon des noisettes n'a pas fait des ravages aussi énormes que ce qu'on dit, et que ça s'accompagne surtout de une mauvaise saison, une mauvaise année où il a plu au mauvais moment, et que c'est un peu un prétexte, cette mauvaise production, pour vouloir réintroduire certains pesticides. Mais il y en a qui disent que ça n'a pas fait tant de dégâts que ça cette année. Du coup,
mais il existe de toute façon des productions de noisettes biologiques en France. Enfin,
oui.
Ça existe, quoi.
Ouais,
c'est faisable.
Ça existe. Je les connais peu.
Mm-hmm.
Je les connais peu.
Et alors les agrumes. Alors là, on est encore plus intrigués, même si on sait qu'il y a des cultures d'agrumes en Bretagne, ça commence à venir. Mais ça serait quel type d'agrumes et comment?
Alors, c'est des agrumes. Alors ici, dans ce territoire et même un peu partout en France, on travaille surtout avec différents porte-greffes plus adaptés à nos territoires, qui sont le citrumello, le citrange, poncirus. Du coup, c'est un peu une base de porte-greffes que même des pépiniéristes dans le sud-ouest utilisent beaucoup et qui sont plus adaptés à nos sols et à notre climat. Au niveau des variétés, moi personnellement, je suis dans des périodes de test, beaucoup. Je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui s'adapte plus ou moins. Après, c'est un climat plutôt favorable, surtout avec des années comme celle qu'on a eue cette année, où il y a quand même pas mal de soleil.
Sous serre quand même?
Non.
Ah ouais, des
moi,
agrumes dehors.
Ouais.
Et quoi, plutôt des oranges, plutôt des citrons, plutôt... D'autres.
Alors là, j'ai planté un peu de tout, mais j'ai plutôt envie d'aller vers le citron et la mandarine.
Ah, la mandarine, bah oui, c'est vrai, ça marche bien aussi ça.
Oui, et mais le citron est moins soumis, enfin, on lui demande moins d'avoir du sucre, un certain taux de sucre, parce que qui dit sucre dit soleil.
Eh oui.
L'orange, c'est plus difficile, mais après, il y en a qui arrivent à en avoir, les pomelos aussi. Ça dépend, en fait, tout dépend aussi du territoire, du type de sol, du porte-greffe, de la variété. Enfin, il y a tellement de facteurs que, en fait, faut essayer, quoi.
Valentin, il est réel. Qu'est-ce qu'on pense de ces productions? Alors, la noisette, bon, il y en a en Bretagne depuis longtemps, mais est-ce que les agrumes, il y a eu d'autres ateliers avec le CIVAM ou d'autres demandes?
Oui, il y a eu d'autres demandes, en effet, soit sous serre en général. Ça peut être aussi en pleine terre. Bon, ça fait partie de entre guillemets, de nouvelles productions qu'on voit un peu apparaître aussi parce qu'il y a de la demande en fait localement, en fruits hein, globalement. Donc c'est des demandes. Il y a encore effectivement pas mal de phases de test en fait là-dessus. Donc nous, de toute façon, il n'y a pas de référence là-dessus. Il faut surtout que les personnes testent.
Il n'y a pas encore un groupe agrumes dans le CIVAM.
Il n'y a pas encore un groupe agrumes, mais ça viendra peut-être d'ici quelques années. Non, après, c'est surtout du test. Et je pense qu'à l'installation, c'est de ne pas miser sur uniquement là-dessus.
Oui.
Réussir à avoir aussi d'autres productions peut-être plus sûres au début pour voir un petit peu ce que ça donne, quoi.
Et alors, Sarah Mathieu, justement, qu'est-ce que vous feriez comme production complémentaire? Ou alors, est-ce que vous feriez de la transformation? Qu'est-ce que vous envisagez comme modèle économique?
Eh bien, la pépinière d'agrumes.
Donc là, vous produiriez des arbres pour les gens qui veulent planter des agrumes. Très bien.
Oui, j'ai déjà commencé. Ça fait 2 ans, mais petit à petit, ça s'agrandit. Et plutôt, ça marche bien.
Il y a de la demande. Les Finistériens veulent.
Il y a beaucoup de demandes. D'accord. Il y a beaucoup de demandes, en fait. Oui, il y a beaucoup de demandes de porte-greffe plus adaptées à ici. Des plants qui poussent en Bretagne. Oui, plutôt.
Et pas trop de concurrence pour l'instant, j'imagine.
Et non, ouais. Peu de concurrence au niveau des agrumes, en pépinière.
Donc pépinière, petits fruits éventuellement, c'est ça en plus?
Eh bien non, j'ai décidé qu'en fait je devais mettre ça de côté pour le moment parce que la pépinière déjà va me demander énormément, plus les noisettes, du coup plutôt je vais miser tout sur la pépinière.
Et les agrumes et les noisettes, est-ce que vous envisagez de les transformer ou
oui.
pas?
La noisette, oui.
Comment?
En crème de noisette.
Donc un atelier à créer aussi.
Ouais.
Crème de noisette, c'est plutôt sucré, hein, c'est ça? Enfin, pâte de noisette pure, c'est ça?
Ouais, plutôt pâte de noisette pure. Après, ça pourrait... s'il y a de la demande, je pourrais faire avec du chocolat et du sucre. Mais pour le moment, pure, c'est déjà délicieux.
Ça peut être poudre de noisette aussi, c'est bien. Hein.
Poudre de noisette. Alors, j'ai un peu fait le tour des biocopes, de voir un peu la consommation des gens autour de la noisette, et c'est plutôt en noisette entière concassée, nature et grillée, quoi, qui ça se consomme le plus. Finalement, la crème de noisette n'est pas tant consommée que ça. Voilà.
Bon. Et alors, vous avez donc... apparemment, vous avez fait une étude de marché. Et comment vous avez repéré votre terrain? Ouais, on arrive dans le dur du parcours. C'est que c'est toujours difficile, je crois, de trouver des terrains. Donc, comment ça s'est passé pour vous?
Alors, moi, j'étais en BPREA à ce moment-là et j'ai entendu dire que certaines terres se libéraient et qu'un voisin les achetait.
Des terres à côté de chez vous? Vous étiez déjà à Rousse-Noën.
Ouais. Un voisin agriculteur pour agrandir... son entreprise, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été le voir, cet agriculteur. Je lui ai dit que quand même il y avait certaines parcelles qui m'intéressaient et que c'est qu'il y a eu un autre agri qui a préempté, qui a fait une demande de préemption à la SFR, qui a posé sa candidature
pour s'agrandir, donc.
Pour s'agrandir aussi un deuxième. Et moi, c'est là que je suis intervenue, que j'ai été voir le premier agriculteur en lui disant qu'en fait, ça m'intéressait aussi une partie des terres. Et là, l'idée, c'était pas forcément de faire une demande pour toutes les terres, mais de laisser une partie. Enfin, j'ai essayé
un arrangement.
Ouais, c'est ça, un arrangement. Ce qui n'a pas trop marché. Puis lui, il était relié à la FNSEA. Qui, eux, ont plutôt pensaient pas que j'allais les avoir, parce que aussi, j'étais pas encore tout à fait en parcours d'installation.
Bah, vous aviez pas
j'étais
encore
au tout
votre
début.
Diplôme.
J'ai,
c'est ça.
J'ai même lancé la demande de 3P.
Qu'est-ce que c'est, ça, la demande de 3P? Valentin.
C'est un accompagnement qui est prévu, enfin qui est organisé par l'État, les services de l'État, et qui se déroule avec la Chambre d'agriculture, les GAB ou le CIVAM, donc nous-mêmes. C'est une démarche de, ouais, d'accompagnement, en fait.
Et voilà, c'est deux, le chiffre 2, 3 et P, non, c'est quoi?
Ça veut dire plan de professionnalisation personnalisé. L'idée, c'est de voir c'est quoi votre projet, c'est quoi vos compétences et comment on les complète, ces compétences, en vue d'une installation. Et ça permet aussi à des organismes comme la SAFER ou d'autres organismes de prouver, entre guillemets, qu'on a bien un projet d'installation. Qu'on ne veut pas, par exemple, récupérer des terres juste pour faire un terrain de loisir ou son propre plaisir, mais que c'est bien pour une installation. Voilà, ça permet ça aussi.
Oui, et donc, c'est la SAFER qui décide. Dans ces cas-là, c'était vraiment la SAFER qui tranchait sur à qui allaient échoir les terres, non?
Ben là, ça dépend s'il y a eu préemption ou pas.
Il y a eu préemption, mais du coup, c'est un comité...
Voilà, donc c'est la SAFER qui tranche quand même en fonction de certains critères.
Et je crois que les critères, ça privilégie quand même l'installation, la personne qui s'installe, c'est ça, la candidature d'installation.
Oui. Sauf que vu que je n'avais pas encore lancé tout à fait le 3P, ce n'était pas sûr que ça se fasse. Mais j'ai contacté le GAB et la CONF.
Confédération Paysanne, voilà, autre syndicat, différent de la FDSEA, on va dire.
Oui. Et j'ai envoyé le dossier, je leur ai expliqué un peu la situation, mon projet, ce qui a fait qu'ils ont pu me défendre aussi, ils savaient un peu de quoi il s'agissait. Et ils m'ont octroyé toutes les terres, finalement.
Alors à quoi elles ressemblent, ces terres? Décrivez-nous.
Eh bien, il y a une parcelle de 4 hectares.
D'un bloc.
En un bloc. Ouais. En fait, toutes ces parcelles étaient en maïs blé pendant peut-être 40-50 ans.
Ah oui, alors que donc c'est vers le Seyou, c'est ça, pour situer pour les gens qui connaissent Rosnoën.
Le Seyou, on va dire, et le bourg de Rosnoën.
Et alors que c'est un secteur où il y a aussi eu de l'arboriculture, et où il y en a encore d'ailleurs un peu, par là. Ouais. Mais là, il n'y avait pas eu d'arboriculture sur cette parcelle.
Tout. Maïs blé.
Et ce n'était pas en bio?
Non.
Donc il faut, là, vous êtes encore en conversion bio, enfin, comment ça se passe?
Eh bien, ça fait peut-être 2 ans qu'elles n'ont pas été cultivées. Du coup, potentiellement l'année prochaine. Mais après, mes plants ne vont pas être en bio, notamment les plants de noisettes. Du coup, il va y avoir quand même quelques années aussi de conversion.
Avant que les plants soient bio, avant qu'il y ait le label agriculture biologique sur les plants.
Oui.
Ok.
Et du coup, une partie des terres a été assez ravagée. Pas de vie.
Ouais. Vraiment. Le sol est mort, quoi, un peu.
Pas de vie. Enfin, c'est compliqué. Après, ça se relance petit à petit. Ça fait un an que je travaille dessus, sur une des parcelles. Et les autres parcelles, plutôt, ça va. Elle s'est bien reprise.
Et comment est-ce qu'on travaille une terre pour la réveiller?
Eh bien, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pas mal de fumier, de cheval, et des engrais verts. Du coup,
voilà, des plantes qui poussent, hein, genre, c'est quoi, du trèfle, des...
Trèfle, avoine, chicorée.
Et qu'on laisse sur place, on les fauche et on les laisse sur place.
Ouais.
Et ça redonne de la vie au sol.
Oui, ça...
Ça fixe l'azote, c'est ça, en gros, techniquement?
Oui, c'est ça, puis ça... On va dire, ça retravaille le sol, ça recrée de la porosité.
Il y a des vers de terre qui peuvent revenir.
Ouais, ça favorise aussi le mycélium.
Champignons.
Ouais.
Et en termes d'exposition, c'est bien exposé?
Alors, il y a une parcelle qui est orientée ouest. Est. Elle est orientée plutôt est. Et les autres parcelles, plutôt nord, mais en fait qui est assez longue. Ce qui fait qu'elle reçoit quand même une bonne partie de la journée le soleil.
Bon, elles seront relativement à l'abri du vent. En tout cas, avec cette exposition.
Oui,
et elles sont en pente?
Ça va.
Beaucoup en pente ou pas trop?
Un peu.
Bon.
Ouais, plus de 10%.
Donc là, vous n'avez pas encore créé l'entreprise agricole. Ça commence quand?
En janvier.
Ouais. Et c'est quoi le calendrier, là? Ce qu'il vous reste à faire, en gros?
Eh bien, Là, ce qui me reste à faire, c'est d'envoyer mon dossier DJA.
Ah, qu'est-ce que c'est ça, Valentin ? C'est souvent, le CIVAM fait ça ?
En fait, dès qu'il y a un sigle, on m'interpelle.
Oui, voilà, c'est ça exactement.
DJA, c'est dotation jeune agriculteur ou agricultrice. C'est une aide de l'Union européenne et de la région Bretagne. Enfin, des financements européens et région Bretagne, au titre de l'installation en agriculture, sous certaines conditions qui sont en fait, d'avoir un diplôme agricole, d'avoir notamment...
Le BPREA, agricole, même pas.
Le BPREA, par exemple, ouais. Ouais. Ou autre. Mm-hmm. Et de présenter un prévisionnel sur 4 ans qui démontre la viabilité du projet. Voilà.
Et le J de DJA, c'est jeune, jeune comment ? Enfin, il y a une limite d'âge ou c'est jeune parce qu'on est, on s'installe ?
Jeune, c'est pas quand on se dit jeune, hein, ouais. C'est quand on a moins de 40 ans.
Ah oui, voilà, quand même.
Il y a une règle, c'est une règle européenne qui a pas pu bouger.
Ouais, c'est dommage, si on s'installe à 41 ans, c'est mort.
Ouais, ouais. Effectivement, alors il y a d'autres aides après entre 40 et 50 ans, mais qui sont quand même moindres. Parce que là, aujourd'hui, la DJA dotation jeune agriculteur, c'est 30 000 euros. Au titre de l'installation et en plus il y a des aides du conseil départemental voire des communautés de communes, voilà, ça peut monter à 38-39 000 euros au titre de l'installation, quoi.
Donc dossier DJA pour vous, Sarah, et quoi d'autre?
Et voilà, je pense,
ouais, c'est bien déjà,
ouais.
Donc vous avez fait votre prévisionnel?
Oui,
tout est prêt.
Oui.
Et vous avez commencé quand même à travailler, comme vous dites, les parcelles, vous les avez depuis un moment, donc vous les avez, oui, travaillées, vous avez planté, j'imagine, pour la pépinière.
Oui, la pépinière, je vise un agrandissement quand même au niveau de la surface de serre. Et là, je plante les noisetiers cet hiver, en décembre, 800 noisetiers.
Ils produiront quand, si on les plante en décembre maintenant ?
Dans 4 ans.
Oui, c'est ça, il faut être patient avec les,
ouais,
arbres.
Ouais.
Pour les agrumes, c'est
et
pareil ?
Et encore, ça va. 4 ans, c'est pas si long comparé à certains autres fruits à coque.
Ah oui. Et les agrumes, c'est pareil, ça va être quelques années ?
Oui, ça dépend encore de l'âge du plant. Là, il commence. Il y en a certains, ceux que j'ai plantés l'année passée, ils commencent un peu à donner, mais.
Ah oui.
Ouais.
Déjà.
Mais bon, c'est peu de quantité, quoi. Mais ça commence, quoi, petit à petit.
Et donc, vous visez une sorte d'autonomie économique pour quand ? Alors, c'est 4 ans, pas avant 4 ans, en fait, c'est ça ?
3 ans. Le temps que la pépinière, elle puisse produire assez et vendre assez. Je vise quand même de pouvoir avoir une sorte d'autonomie financière au bout de 3 ans.
Et vous vendrez comment ? En direct ou vous passerez par des intermédiaires ?
Pour la pépinière, en direct. Parce que si je revends à d'autres pépinières, en fait, ça va monter trop haut les prix de vente. Du coup, j'ai décidé de faire en vente directe. Et pour les noisettes, ça va être en biocoop, principalement. Après, s'il y a des demandes dans le coin, pour les cantines, pour les agrumes, j'aimerais bien aussi les cantines, ce serait super. Des mandarines pour,
oui,
les enfants.
Bah, on a une cantine, ouais, très intéressante pour ça à Rosnoen.
Ouais.
Donc,
ouais, ça... ouais.
En effet. Alors, ce n'est pas les productions les plus classiques, hein, Valentin, c'est les agrumes et noisettes. Mais est-ce que le parcours en arboriculture, enfin en production de fruits, est à peu près de ce... toujours un peu de ce type-là ou...
Oui, et puis c'est une situation de création aussi. Donc forcément, et ça, c'est quelque chose qui est des fois un peu mal compris et mal jugé, à mon sens, par la profession agricole. Hein. C'est en fait, quand on crée, bah, forcément, on ne peut pas avoir un revenu... disponible agricole, comme on dit, ou un retour là-dessus très rapide, il faut bien 3-4 ans. Mais ça, c'est vrai pour toute situation de création.
Oui, c'est ça.
En fait, on démarre
maraîchage,
d'un champ,
c'est aussi souvent le cas. Hein.
Maraîchage, ouais, voilà, c'est pareil. Donc, en fait, juger de la viabilité économique du projet sur 3 ans, c'est... En fait, on peut pas le faire au même titre que si on compare, je veux dire, avec un projet de reprise. Vous reprenez une ferme qui est déjà en place, qui a déjà des canaux de commercialisation, bah forcément la viabilité, voilà.
Alors, mais après, comment font les gens pour vivre pendant 3 ans ?
Eh ben voilà. Après, c'est tout l'enjeu, c'est la grosse question de quand on a une situation de création. Quelle stratégie est-ce qu'on met en place pour faire en sorte qu'on arrive à vivre entre-temps ? Alors, en stratégie, on a, je donne des exemples, hein, mais il y a des gens qui vont monter un atelier, par exemple des fraises, des poules pondeuses, des choses comme ça, qui vont avoir une rentabilité relativement rapide pour histoire de mettre un peu d'argent en trésor ce temps-là. Il y a des gens qui vivent sur leur épargne, il y a des gens qui font des arbitrages au sein du couple aussi, pour se dire, bon, bah, finalement, on vit un peu plus sur ton salaire.
Il y a des familles qui aident aussi, ouais, parfois.
C'est ça, il y en a qui travaillent à l'extérieur, sur un petit mi-temps. Il y en a qui vont être, par exemple, travailleurs indépendants. Je pense à des situations qu'on a eues, des gens qui sont traducteurs, des choses comme ça, et qui peuvent prendre du boulot quand ils veulent ou arrêter.
Voilà. Ouais.
En tout cas, ou du chômage aussi. Alors, le chômage, ça devient un peu plus difficile aujourd'hui. Avec les réformes du chômage, on voit qu'il y a... Ça pose une vraie difficulté en plus. Mais en fait, cette stratégie-là, elle est hyper importante à réfléchir.
Oui, c'est ça.
Et quand on se dit il faut 3 ans, bah, il faut prévoir 4 parce qu'il y a toujours plus, des allées en plus. Quoi.
Ouais. Et vous, Sarah, ça sera quoi alors, vos revenus en attendant ?
Eh bien, là, comme aussi cette année, travail saisonnier.
Ouais. Dans d'autres exploitations agricoles.
Oui.
Ouais. Pas forcément l'arboriculture, d'ailleurs.
Pas forcément, non. Bon. Bah là, cette année, j'ai travaillé plutôt dans l'élevage. Et puis, récolte aussi, plutôt autour des vignes. Aussi, enfin, voilà.
Et ben, on vous souhaite bon courage et on a hâte de goûter les noisettes, mandarines, citrons. Et merci aussi, Vam, du Finistère, pour cette émission mensuelle, toujours passionnante. Au revoir, à bientôt.
Au revoir, merci.
Et c'est la fin de ce LEM que vous pourrez réécouter sur le site internet de la radio. Restez avec nous, les ondes ne s'arrêtent jamais.